Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous et à toutes à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres aujourd'hui, pour la justice slovaque, le ministre tchèque des Finances, Andrej Babiš, n'a pas collaboré consciemment avec la police secrète communiste. Le premier ministre tchèque réitère le soutien de la République tchèque à la candidature de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne et un cinquième des personnes amnistiées début 2013 à nouveau en prison. Le tribunal de Bratislava en Slovaquie a rendu son verdict ce jeudi concernant l'actuel ministre tchèque des Finances, Andrej Babiš, soupçonné d'avoir été un agent du service de renseignement de la STB sous le régime communiste. Selon ce jugement, le nom d'Andrej Babiš figure sans justification dans les archives de la STB en tant que collaborateur. Milliardaire à la tête d'un important empire industriel et leader du mouvement ANO, une des deux principales formations de la coalition gouvernementale, Andrej Babiš a été membre du Parti communiste dans les années 1980. À l'époque, son statut lui a permis de travailler à l'étranger dans les entreprises tchécoslovaques de commerce extérieur. Mais en Slovaquie, où il est né, son nom figure également sur les listes des confidents ayant collaboré consciemment avec l'ancienne police secrète STB. L'intéressé, qui s'en défend, a donc intenté une action en justice dans son pays d'origine contre l'Institut de mémoire de la nation, qui dispose des documents afin de laver son nom. Le Premier ministre Bohuslav Sobotka a confirmé le soutien de la République tchèque à la candidature de Jean-Claude Juncker, ancien chef du gouvernement luxembourgeois à la tête de la Commission européenne. À l'occasion d'un entretien téléphonique, le leader de la formation social-démocrate tchèque lui a indiqué que Prague voterait en sa faveur lors du sommet européen de la semaine prochaine. Jean-Claude Juncker a mené la campagne du principal parti de la droite européenne lors des élections européennes de mai dernier. Environ 18% des personnes sorties de prison début 2013 suite à l'amnistie surprise et controversée annoncée par l'ancien chef de l'État Václav Klaus sont à nouveau derrière les barreaux. La ministre de la Justice, Elena Valková, s'inquiète que d'ici 1 à 2 ans, les prisons tchèques soient une nouvelle fois en situation de surpopulation. Après une rencontre avec différents magistrats, elle a annoncé à l'agence de presse ČTK qu'elle envisageait de développer les peines alternatives à l'emprisonnement et d'annuler la division des pénitenciers tchèques en 4 types pour lutter contre le problème. Les ministres des Affaires étrangères Lubomír Zaorálek et de l'Industrie et du Commerce Jan Mládek signent ce jeudi un accord visant à favoriser le développement des exportations et de la diplomatie économique de la République tchèque. Le président de la République, Miloš Zeman, notamment, appelle à une intensification de la diplomatie économique dans le monde. L'objectif de cet accord, selon Lubomír Zaorálek, est de mettre en place un système clair et transparent permettant à la fois de soutenir les exportations et d'attirer les investisseurs étrangers. La société brassicole Budějovický Budvar, propriété de l'État tchèque et basée à České Budějovice en Bohême du Sud, a remporté définitivement un litige qui l'oppose au Portugal à Anheuser Busch InBev, un groupe phare du secteur qui commercialise la bière Budweiser. Selon le jugement d'un tribunal d'appel local, ce groupe a illégalement utilisé des marques protégées contenant cet élément Budweiser, confirmant ainsi la décision d'une autre cour de justice en décembre dernier. Le litige commercial sur l'utilisation du terme Budweiser, qui désigne un habitant de České Budějovice en allemand, dure depuis 1907. On termine avec la météo. Vendredi, jour de la fête des Ladislaves, le ciel tchèque reste largement nuageux, mais il n'y a pas de précipitations en vue. Les températures remontent légèrement pour s'établir entre 20 et 24 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous était présenté par Pierre Ménian. La suite du programme, c'est maintenant entre les mains de Léna Sabadel.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour, dobrý den à tous nos auditeurs de Radio Prague et bienvenue pour la suite de notre émission consacrée à l'actualité tchèque en français. Merci tout d'abord à Pierre Ménian pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce jeudi 26 juin, la République tchèque qui s'apprête à restituer à l'église l'un de ses édifices les plus précieux, à savoir l'église baroque Saint-Jean-Nepomucène, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Guillaume Narguet nous donnera plus de détails sur ce sujet dans quelques instants. Du théâtre également, avec le Festival du théâtre européen qui a lieu en ce moment même à Hradec Králové, en Bohême de l'Est, et qui fête cette année ses 20 ans. Lucie Drahselová nous fera un point sur les nouveautés de cette 20e édition qui s'achève lundi prochain et qui est souvent présentée comme l'équivalent du Festival d'Avignon en République tchèque. Enfin, dans la deuxième partie de notre émission, Yaroslava Gisubelova nous emmènera visiter les jardins baroques sous le château de Prague dans notre rubrique Pays du tourisme. Un programme qui s'annonce donc très riche. Très bonne écoute à toutes et à tous. L'État s'apprête à rendre à l'église un des plus beaux monuments historiques qu'ont la République tchèque. Dans le cadre de l'application de la loi sur la restitution des biens confisqués aux églises sous le régime communiste, l'Institut national du patrimoine a annoncé ce mercredi qu'il remettrait l'église Saint-Jean-Népomucène qui se trouve sur le lieu-dit de Zelená Hora, à proximité de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina. Chef-d'œuvre architectural de la première moitié du XVIIIe siècle, l'église, qui est également un important lieu de pèlerinage, figure depuis 1994 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un sujet signé Guillaume Narguet.
Fruit le plus célèbre du travail et du génie de l'architecte Jan Blažej Santini, l'église Saint-Jean-Népomucène a été confisquée à l'église catholique par le pouvoir communiste alors en place en 1954. Depuis, l'édifice était donc une propriété de l'État tchèque, sa gestion et son entretien étant l'affaire de l'Institut national du patrimoine. Celui-ci estime aujourd'hui à environ 90 millions de couronnes, soit 3 270 000 euros, le montant total des sommes dépensées dans l'entretien de l'enceinte visitée chaque année par environ 50 000 personnes, dont la moitié payante. Une réalité économique dont sont bien conscients les dirigeants de l'Église catholique, comme l'a confirmé Tomáš Holub, secrétaire général de la Confédération épiscopale tchèque.
Nous sommes heureux que l'État ait fait ce qu'aurait fait et continuera à faire l'Église, c'est-à-dire s'occuper de l'entretien d'un monument comme l'est l'Église Saint-Jean-Népomucène, pendant la période où ces monuments nous ont été confisqués. Il faut préciser que cette Église constitue malheureusement une exception, car beaucoup d'autres monuments qui doivent nous être restitués sont dans un bien plus mauvais état et leur rénovation va nous coûter très cher. Mais pour ce qui est de l'Église à Zelená Hora, nous pouvons en effet remercier l'État de s'en être occupé de façon responsable.
Entrée en vigueur en janvier 2013, la loi sur la restitution des biens aux églises, en plus d'avoir de multiples opposants, pose un certain nombre de problèmes pratiques et administratifs dans son application. Les différentes églises, frappées par la suppression de leurs biens entre 1948 et 1989, période durant laquelle le Parti communiste est resté au pouvoir en Tchécoslovaquie, ont ainsi déposé, en l'espace d'un peu plus d'un an, quelques 5600 demandes de restitution pour 116 000 terrains et 1900 bâtiments. Autant de dossiers, pas toujours très bien ficelés ou partiellement incomplets, que les institutions publiques traitent avec des effectifs et un temps limité. De plus, si l'État s'est engagé à rendre ce qui lui appartenait depuis plusieurs décennies, il ne s'en débarrasse pas pour autant. Ainsi, l'église de Saint-Jean-Népomucène est le premier bien classé monument national qui sera restitué par l'Institut national du patrimoine, comme le précise sa porte-parole Simona Juračková.
La convention relative à la restitution de l'église de Zelená Hora est effectivement le premier contrat qui sera signé par l'Institut national du patrimoine, alors que nous avons reçu plus de 40 demandes. Il est prévu de rendre ce grand lieu de pèlerinage plus accessible pour le public et les touristes. D'importants travaux sont envisagés à cette fin. Mais il n'y aura pas que des visites. La paroisse souhaite également qu'un plus grand nombre d'offices, de messes, de mariages et d'enterrements y soient célébrés. Tout cela sans oublier les services pour les pèlerins, car Jean Népomucène est considéré comme le plus grand saint tchèque.
« Pour rappel, la loi qui divise la scène politique et l'opinion publique depuis près de 25 ans prévoit que l'État restituera aux églises 56% de leurs biens et leur versera aussi progressivement sur une période de 30 ans une compensation de 59 milliards de couronnes, soit 2 milliards 150 millions d'euros pour les biens ne pouvant être restitués. Par ailleurs, l'État et les représentants des églises se sont entendus sur une période transitoire de 17 ans, période pendant laquelle les églises recouvreront leur indépendance économique. Pendant les 3 premières années, le gouvernement continue de verser un salaire aux représentants des différents cultes et de payer les dépenses administratives des églises. Pendant les 14 années suivantes, les paiements de l'État iront en décroissant chaque année de 5%.
Parfois présenté comme le Festival d'Avignon tchèque, le Festival des théâtres des régions d'Europe se déroule actuellement à Hradec Králové en Bohême de l'Est. Des dizaines de milliers de spectateurs participent à cette rencontre traditionnelle qui propose pour sa 20e édition près de 300 spectacles en l'espace de 9 jours. Marquée cette année par le départ de son fondateur, le directeur du théâtre Klispera, Ladislav Zeman, le festival est voué à prendre une nouvelle orientation sous la tutelle de la dramaturge de ce même théâtre, Jana Sloukova, qui a répondu à quelques questions de Lucie Drselová.
Manifestation culturelle parmi les plus fréquentées de la région, le Festival des théâtres des régions d'Europe s'est établi au cours de ces 20 dernières années, et Jana Sloukova précise.
À l'origine, un festival du montage européen avait été lancé. Il s'agissait du premier événement de ce type en République tchèque après la révolution de velours. Il a été fondé par le directeur du théâtre Klispera, Ladislav Zeman, qui voyageait souvent en Avignon avec des contacts à l'étranger et savait aussi choisir le meilleur de la production théâtrale tchèque. Ladislav Zeman a choisi d'organiser le festival à la fin du mois de juin afin de marquer solennellement la fin de la saison.
Le festival est lié indissociablement au directeur du théâtre Klispera, Ladislav Zeman. Sous sa direction, le théâtre Klispera a reçu 4 fois depuis 1990 le titre de théâtre tchèque de l'année. Mais avant cette 20e édition, Ladislav Zeman a annoncé son départ à la retraite. Jana Sloukova poursuit.
Ladislav Zeman a organisé toutes les éditions du Festival des théâtres des régions d'Europe. Mais cette fois, pour des raisons de santé, il m'a chargé d'organiser la 20e édition. Je pense que mon arrivée s'accompagne d'une légère réorientation du festival, et ce notamment sur 2 aspects. D'abord, je suis très heureuse qu'après 4 ans de pause, nous ayons de nouveau des troupes étrangères. Elles sont au nombre de 6. Mon deuxième objectif est d'inviter les réalisateurs des spectacles et ainsi de permettre au public et aux professionnels de se familiariser avec la culture du théâtre dans d'autres pays qui, pour nous, sont exotiques.
Des comédiens français, polonais, tunisiens ou kosovars se produisent donc devant le public de Hradec Králové et la délégation tunisienne est l'invitée spéciale de cette année. Jana Sloukova esquisse les contours d'une possible coopération.
Il s'agit vraiment d'un projet exclusif. J'ai réussi à lancer une coopération avec la ville tunisienne de Sfax. Nous avons fait venir à Hradec le professeur de littérature Lahassad Jamoussi, qui est également le directeur du plus grand festival de théâtre en Tunisie. J'espère que nous organiserons différents échanges à l'avenir ou que nous jouerons comme invités les uns chez les autres. Dans sa conférence, M. Jamoussi a exposé non seulement la situation actuelle dans le monde du théâtre en Tunisie, mais aussi proposé une excursion dans l'histoire culturelle de son pays. Je retiens 2 choses de sa présentation. La première est que nous oublions souvent que la Tunisie est un pays très ancien, où il y avait des civilisations, des Berbères et des Phéniciens, avant même la Grèce et la Rome antique. La seconde, elle, se rapporte à l'influence du printemps arabe qui a permis de jouer des pièces de plusieurs auteurs jusqu'alors interdits en Tunisie et de disposer d'une plus grande liberté de parole.
Le Festival des théâtres des régions d'Europe, qui refermera ses portes ce lundi 30 juin, est entré dans sa seconde moitié. Ce jeudi, il accueille la pièce d'Hydro Bagarre de Régis de Martrandonon, un auteur contemporain français également présent à Hradec Králové.
Et enfin, dans notre rubrique Pays du tourisme, Yaroslava Gisubelova nous emmène cette semaine nous balader dans les jardins baroques situés sous le château de Prague. Parallèlement à la Nuit des musées, qui a eu lieu le 14 juin dernier, les jardins des palais et châteaux tchèques ont été ouverts au public. Et celui-ci a porté un intérêt tout particulier pour les jardins du versant sud du château de Prague. Merveille de l'architecture baroque, riche d'une multitude d'éléments rares comme la Sala Terrena, une loggia à arcades et gloriettes, les jardins offrent des vues insolites du quartier de Malastrana. S'élevant en terrasse, ils sont reliés par une vingtaine de volées d'escaliers, offrant différentes possibilités de passage, y compris une jonction entre le complexe du château de Prague, en haut, et la rue Waldsteinska, en bas. C'est là, au palais Waldstein, siège de l'Institut du patrimoine chargé de la gestion des jardins, que commence notre balade proposée par Yaroslava Gisubelova.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
L'Institut du patrimoine a achevé la restauration complète des jardins en 2000. Entamé en 1991, ces travaux ont pu être réalisés grâce à une importante contribution de la fondation Prague Heritage Fund, créée sous le patronage du prince Charles de Galles et du président tchèque Václav Havel. Objet d'intérêt de nombreux touristes en cette saison estivale, les jardins sont des oasis de repos. La châtelaine Helena Dobkova nous les présente.
Les jardins sous le château sont en fait un complexe de 5 jardins en terrasse. Le grand jardin Palfi, le petit jardin Palfi, le jardin Ledebourg, le jardin Kolovrat et le jardin Fürstenberg. Nous voici dans le grand jardin Palfi qui, comme son nom l'indique, est vaste avec un escalier enserré dans son axe. Édifié sur les vestiges des fortifications du XIVe siècle qui entouraient autrefois le château, le jardin possède encore, dans sa partie supérieure, quelques murailles d'origine.
Les origines des jardins de palais, elles, remontent au XVIIe siècle, lorsque le style baroque envahit Prague et remplit la surface libre. Les terrains situés sur le versant sud, sous le château, ont été occupés progressivement par des palais fastueux, derrière lesquels des jardins en terrasse ont été créés. Assis sur un banc près d'une fontaine, au-dessus de laquelle se dresse un cadran solaire, Helena Dobkova raconte pourquoi le grand jardin Palfi est son préféré. C'est parce qu'il offre des vues sur l'ensemble des jardins.
À gauche, on aperçoit le jardin Ledebourg de couleur blanche et rouge selon des fleurs. Ce jardin est doté d'une Sala Terrena décorée de fresques et de plastique. Sur notre droite se trouve le jardin Fürstenberg, un jardin de style rococo très agréable avec des rosiers qui sont tous en fleurs. Derrière s'étend le jardin Kolovrat qui est un jardin de production avec des arbres fruitiers, des néfliers, des figuiers, des abricotiers récemment plantés. Ce jardin servait à l'approvisionnement en fruits et légumes.
Quant au petit jardin Palfi, il est relativement simple. Sur ses terrasses, on trouve des légumes, une vigne et des arbustes décoratifs. Helena Dobkova raconte une anecdote relative à l'endroit.
Dans le passé, une forteresse se dressait en haut près du château et ses défenseurs ne voyaient pas l'ennemi à travers la forêt qui poussait à cet emplacement. C'est pourquoi ils ont ordonné l'abattage de tous les arbres. La plaine ainsi créée a servi ensuite à la culture des arbres fruitiers, des légumes et de la vigne.
Enfin, le dernier du complexe des jardins situé au pied du château de Prague, le petit jardin Fürstenberg est le plus pittoresque de tous par sa composition. Son aspect actuel en style rococo tardif remonte en 1788. L'escalier central qui relie les différentes terrasses nous mène depuis une gloriette vers une loggia à arcades de laquelle on accède à un belvédère panoramique. Le reste du versant est occupé par le grand jardin Fürstenberg. D'une superficie d'1,5 hectare, il est le plus vaste de tous les jardins. Resté fermé pendant des années, ce jardin, le dernier à avoir été rénové et ouvert au public en 2008. Par un escalier inséré dans son axe, on accède aux deux orangeries situées au milieu du jardin, dans lequel se trouve aussi un belvédère panoramique et une fontaine baroque. Par le même escalier, on peut monter jusqu'à la sortie donnant sur le vieil escalier qui permet de poursuivre la promenade au château de Prague. Les architectes italiens sont les créateurs de la plupart des jardins et des palais derrière lesquels les jardins en terrasse ont été édifiés. Les noms de ces palais et jardins sont ceux de leur dernier propriétaire, développe Helena Dobková.
V tom 19. století ta šlechta, která tyto paláce vlastnila, tak velmi pečovala.
Au 19e siècle, la noblesse propriétaire des palais prêtait beaucoup de soins à l'entretien de ses biens. En dehors de Prague, dans les villages qu'elle possédait, elle fondait des écoles, veillait à ce que les casernes des pompiers soient équipées de façon à ce que les habitants puissent se protéger en cas d'incendie.
Příkačky, aby mohli vesničané bránit svou obec před požáry.
Chacun des jardins sous le château de Prague possède un lien avec une personnalité ou une histoire. Ainsi, il y a 13 ans de cela, dans le petit jardin Palfi, Václav Havel était assis avec son hôte, le prince Charles, qui a beaucoup apprécié la beauté des jardins rénovés. Au 19e siècle, l'historien František Palacký aimait s'y promener. Aujourd'hui, ces jardins attirent notamment les esprits romantiques et les amoureux de Prague, ainsi que l'observe la châtelaine Dobková.
Když se dostaneme až úplně nejvýš, tak vidíme horizont Prahy a vidíme.
Du haut des parties supérieures des jardins, des vues inattendues de Prague s'ouvrent devant nous. Les tours des églises sont à portée de main, on les voit sous un autre angle et d'une autre perspective. Chacune de la trentaine de terrasses sur lesquelles les jardins sont situés donne une vue différente. En regardant le quartier de Malá Strana, on se retrouve au même niveau que les tours qui dominent ses toits. Les jardins offrent réellement une vue insolite de Prague.
Tak nádherně vystupují, že skutečně to dává ojedinělý pohled na Prahu.
Les jardins baroques sur le versant sud du château de Prague sont ouverts au public du 1er avril au 31 octobre. Deux entrées et sorties se trouvent en bas dans la rue Waldsteinska, la troisième dans le jardin Fürstenberg où la visite se termine habituellement. Là, par une sortie située près du vieil escalier du château, on peut continuer la promenade jusqu'à la cathédrale Saint-Guy, où de nombreuses manifestations sont organisées pour son 670e anniversaire.
Et c'est avec notre rubrique Pays du tourisme que s'achève l'émission de ce jeudi 26 juin. Merci d'avoir suivi notre programme qui vous a été présenté par Léna Sabadell. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en visitant le site internet de Radio Prague, www.radio.cz/fr. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Ahoy!